Vous êtes bien sûr Fréquence Mistral, votre radio régionale qui vous accompagne toute la journée.
Émission spéciale sur Fréquence Mistral avec le Théâtre du Rance à Château-Arnoux-Saint-Auban, avec nos invités que nous retrouvons tout de suite.
Élodie Prel, directrice du Théâtre du Rance.
Elsa Gobert, administratrice du Théâtre du Rance.
Élodie et Elsa, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivées par passion dans ce milieu et de quelle façon vous y êtes arrivées? Élodie Prel, donc directrice, et Elsa qui est à vos côtés.
Elsa est administratrice. Alors souvent on entend par administrateur des gens qui sont dans les conseils d'administration. Nous, c'est un vrai métier de technique, en fait, qui est un métier qui prend en charge tout ce qui relève des finances, donc budget, demande de subvention parce qu'on est financé beaucoup par l'argent public, tout ce qui est coordination opérationnelle, ressources humaines, donc gestion du personnel aussi, et tout ce qui concerne aussi la vie de l'association. Voilà, donc c'est un gros poste. Très important.
Quelqu'un qui n'est pas à vos côtés par hasard.
Moi, je suis très contente de travailler ici. Je suis arrivée il y a 2 ans pour succéder à Ronan Le Pennec, ancien administrateur. J'arrive de Marseille et quand j'ai vu que le Théâtre du Rance recherchait un administrateur, une administratrice, je me suis dit c'est pour moi et j'ai tout fait pour avoir ce poste.
Alors, vous êtes battue pour avoir ce poste. Élodie, de son côté, s'est battue également pour avoir ce poste, on peut le dire. Élodie, de quelle façon est-ce que vous êtes arrivée à ces fonctions?
Ah ben j'ai postulé, tout simplement. En fait, il y avait un appel à candidature qui est paru dans les journaux spécialisés. Ils existent. Et puis, c'est surtout un ami qui m'avait appelé et qui m'a dit, tu sais, le directeur du Théâtre de Rance s'en va. Je pense que c'est absolument un endroit pour toi. Et moi, dans mon parcours, j'étais vraiment pas du tout à cet endroit-là. Mais pas du tout. J'étais en train de travailler avec un artiste. On faisait plein de projets, avec notamment des projets participatifs. Lui, il habitait à Bruxelles. Moi, j'étais à Marseille. Enfin, voilà. J'avais déjà tenté de postuler à des directions. Et puis, ça s'était soldé par un échec. Puis, on m'avait dit, oui, non, mais en fait, il y a un petit peu des chemins de tracés à faire. Vous visez un peu trop vite. Il faut faire ça avant. Et puis comme j'ai un caractère plutôt pas très, docile, je me suis dit ça m'ennuie en fait de me plier à des parcours déjà tout tracés. Donc j'avais abandonné cette idée-là. Et quand cet ami m'a appelé, je lui ai dit, tu sais, c'est pas du tout mon projet professionnel de diriger un lieu, je suis passée à autre chose, enfin c'est pas mon envie, voilà. Sauf que, et ben, la petite phrase, elle était dans ma tête, et je me suis dit quand même, avant de dire non de manière... ferme et définitive, va voir un petit peu, depuis le temps qu'il te parle de ce théâtre, va voir. Donc je suis allée voir l'annonce, et là j'ai eu comme une épiphanie. Quand j'ai lu l'annonce, je me suis dit, mais c'est complètement pour moi. Et dans la foulée, je me suis dit, mais je suis complètement pour eux. Voilà, donc c'était un peu prétentieux, mais j'avais cette intime conviction qu'effectivement, là, il y avait quelque chose qui pouvait se rencontrer. Après, bah, quand on répond à un appel de la candidature, on doit faire une jolie lettre qui explique nos motivations avec notre CV. À partir de ça, il y a un certain nombre de candidatures qui sont reçues. Il y a un jury qui fait une présélection. Donc ils ont retenu 7 candidats dont je faisais partie. Et là, on avait un bon mois pour écrire un projet, imaginer si on était directeur ou directrice du Théâtre du Rance, qu'est-ce qu'on allait faire de ce lieu, de cette équipe, de ce territoire, de ce projet. Donc en ayant assez peu d'éléments en main quand même, en rencontrant des gens, en passant des coups de fil, en visitant le territoire et en disant, bah voilà, moi le Théâtre du Rance, je le sens comme ça, j'ai écrit un projet. Et donc on n'était plus que 6 parce qu'il y a un candidat qui s'est dédié. Et on a passé notre petit oral devant un jury de 9 personnes qui ont posé plein de questions. Et à l'issue, ils ont arbitré, ils ont choisi et ça a été moi. Voilà, donc au départ, il y avait 80 candidats et à la fin, il y avait une directrice.
Et ce côté créatif, ce côté artistique, à quel moment il est venu et de quelle façon? À quel moment vous avez dit, je suis peut-être une artiste, j'ai besoin d'être ou proche ou sur la scène ou en observation de la scène?
Alors ça a démarré, c'était que j'étais toute petite. Non, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille où l'art était déjà présent, la pratique et l'écoute et la découverte. Donc j'avais des parents qui étaient très ouverts sur plein de musiques différentes, à la fois classiques, chansons françaises, mais aussi rock américain. J'avais des sœurs plus âgées qui, elles, étaient déjà à la pointe du rock psychédélique des années 70, 80, 90. Donc tout ça, ça a créé quand même un environnement sonore assez riche et qui faisait quand même des grands écarts. Je crois que ce qui nous rassemblait, c'était les Beatles. Pour les trajets de voyage en vacances, ça mettait tout le monde d'accord dans la voiture. Voilà, il y a ça. Il y a eu la pratique d'un instrument très jeune, le piano, donc le solfège qui va avec. Ce n'était pas forcément les meilleurs souvenirs que je garde de cet apprentissage, mais le piano, c'était vraiment un instrument avec lequel j'ai eu une relation amour-haine. aussi, parce que ça a été à la fois très joyeux puis très difficile, parce que c'est un instrument difficile, et que cet apprentissage-là est difficile, surtout quand on est enfant. Mais j'avais une mère qui m'a poussée au cul et qui m'a dit « Non, non, tu continues, t'abandonnes pas. » J'ai fait du chant choral dans une chorale d'enfants, mais ça, c'était mes sœurs qui en faisaient. Donc je suivais un peu les traces de mes grandes sœurs, pour lesquelles j'avais beaucoup d'admiration. Et puis après, bah, c'est aussi l'apprentissage à l'école, voilà, avec des instits qui nous faisaient chanter. Il y avait des chorales, on faisait des chorales pour aller chanter dans les maisons de retraite pour les personnes âgées. Voilà, il y a eu toutes ces découvertes-là, des spectacles. J'avais déjà peut-être raconté aussi un voyage d'entreprise, de l'entreprise où travaillait mon père, à Bruxelles, pour aller voir un spectacle de Béjart. Et moi, j'ai découvert Béjart, j'avais 7 ans. Et j'en garde des images encore très précises. Donc je pense que c'est tout ça qui fait que, quand j'étais petite, je disais tout le temps que je voulais être comédienne, je voulais être actrice. Et puis mon environnement familial me disait, c'est bien, mais faisant un amateur, mais il faudrait peut-être que tu aies un vrai bon métier. Parce que quand même, comédien, comédienne, c'est plein d'incertitudes. En tout cas, ça ne rassurait pas mes parents. Même s'ils étaient très contents qu'on soit très ouverts aux choses de l'art, en faire son métier, ça les angoissait pas mal. Et puis finalement, je suis partie sur une autre voie professionnelle. En perdant aussi cette curiosité de la découverte du spectacle, tout en gardant vraiment une oreille pour la musique, parce que ça m'a toujours accompagnée. Et je me rends compte que même étudiante, avec mes copains de fac, on allait écouter des concerts un peu bizarres, quoi, du jazz expérimental dans des caves, en sous-sol, des bars de Lille. Et je me dis, mais c'est fou, on écoutait ça quand on avait 20 ans, qui est quand même pas du tout une musique de jeunes. Enfin, je sais pas, enfin, c'était très étrange. Donc c'est tous ces parcours-là, toutes ces choses qui ont alimenté. Et qui ont fait qu'à un moment donné dans mon parcours professionnel, après de longues années d'études dédiées à un métier qui finalement ne me satisfaisait pas beaucoup, la pratique du théâtre amateur, justement, dans une ville où je travaillais à la mairie.
On peut savoir le nom de la ville ?
Moulins-sur-Allier, voilà, dans l'Allier, en plein centre de la France. Je m'occupais de la communication de la commune, voilà. Et je faisais du théâtre en amateur, et il s'avère que le directeur du théâtre est décédé 3 mois avant les élections, où le maire ne se représentait pas. Donc l'équipe municipale n'avait pas du tout envie d'embaucher quelqu'un avant l'arrivée d'une nouvelle équipe. Puis ils se sont dit, mais Madame Prel, là, elle va au théâtre, elle fait du théâtre, ça doit l'intéresser. Et si on lui proposait de s'occuper de la programmation du théâtre municipal ? Et moi, je dis, bah oui, mais j'y connais rien. Et donc, en fait, avec l'équipe du théâtre, on a commencé à travailler comme ça, en mode, on y va, mais en méconnaissance de tout pour ce qui me concerne. Et ce qui fait qu'au bout d'un an, je me suis dit, quand même, ça m'intéresse beaucoup plus que la communication. Et donc j'ai quitté la mairie et je suis allée refaire une formation en ingénierie culturelle. Et puis après, voilà, c'est des parcours, des rencontres qui m'amènent, je dirais, de Albertville à Lille, à Marseille, puis à Château-Arnoux.
Elsa, cela vous fait quoi d'entendre ceci de la part de la directrice du Théâtre du Rance ?
Bah, ça fait un peu écho à mon parcours. Bon, moi, quand j'étais petite, je voulais être ministre de la Culture.
En toute modestie.
En toute modestie. Et je voulais faire du théâtre aussi, j'adorais ça. J'avais des parents architectes. Mais du coup, assez quand même branché, théâtre, cirque. On allait beaucoup à l'Espace Chapiteau à Paris. J'allais voir Zingaro depuis toujours. Voilà, j'ai beaucoup baigné là-dedans aussi. Après, j'ai fait du théâtre. Et c'est assez naturellement que je suis allée. J'ai fait une fac théâtre, art du spectacle. Et puis, j'aimais bien organiser les choses aussi. Donc, voilà, au fur et à mesure, en train de faire des projets à la fac, se faire des copains, aller voir des concerts aussi, beaucoup de concerts. Beaucoup de théâtre, et puis après, à écouter un peu ce que chacun fait. Et l'administration, ça me plaisait, parce que ça a gardé un côté très... J'avais fait un bac S, donc un côté très scientifique, logique, rigoureux. Et ça alliait en même temps l'administration dans le spectacle, bah, ça allie aussi tout ce côté artistique, de rencontre avec les artistes. Et c'est vraiment un peu, je trouve, au centre de tout. Ça permet de croiser un peu, de voir tous les métiers, de voir ce que chacun fait, d'être au courant, quoi. Donc voilà, j'ai fait une fac administration de projets culturels. Et puis après, plusieurs petits métiers d'administration, de salle de concert. J'ai travaillé à la Friche de la Belle de Mai, plus à l'accompagnement des artistes. Et après, je suis venue ici, voilà, pareil, en répondant à l'annonce. Et c'est rigolo, ouais, quand j'entends Élodie aller voir des spectacles. C'est vrai que c'est ça, en fait. Moi, ce qui m'anime, c'est de voir des spectacles, en fait. Vraiment, c'est ça.
Et là, à présent, vous vous sentez comment au Théâtre du Rance depuis plus de 2 ans maintenant ?
Oh, bah, très bien. Attention. Non, c'est vrai. Bah, au début, j'ai eu un peu peur quand j'ai postulé. Et puis après, sur la prise de poste, parce que c'était un poste qui était avec des missions assez similaires à ce que j'avais déjà fait, mais sur une enveloppe budgétaire plus importante. Une structure qui venait juste d'être labellisée, donc il ne fallait pas emmener la structure dans le mur. mais tout en sachant qu'il y avait quand même une équipe assez rodée, qui connaissait bien la structure, voilà, qui était en place et qui suivait, qui comprenait le projet. Voilà, donc ça a fait que je me suis sentie bien assez vite. Et puis là, c'est la deuxième saison que je termine au théâtre. Et donc ça va, je me sens bien.
Nous sommes sur Fréquence Mistral. Un petit peu de musique, on se retrouve juste après.
Vamos farrear, a cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai essa noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai essa noite se embriagar.
Hoje eu vou beber que não vai ser fácil, vou encher a cara.
Le théâtre d'Urance, scène nationale. Élodie, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? De quelle façon est classifié le théâtre d'Urance à Château-Arnoux-Saint-Auban ?
Alors, scène nationale, c'est un label décerné par le ministère de la Culture. Donc, ça veut dire que nous répondons à un certain nombre de critères que demande le ministère de la Culture. Et donc, pour répondre à ces demandes, il faut répondre à un cahier des charges. Alors, il est à la fois précis, mais relativement ouvert quand même. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans la douzaine de labels que décerne le ministère de la Culture, c'est le seul qui concerne des scènes dites pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'on va toucher aussi bien au théâtre qu'à la danse, à la musique, au cirque, à la marionnette, voilà, à tous les genres esthétiques qui existent dans le spectacle vivant. Alors qu'il y a des labels qui sont dédiés que pour la création théâtrale ou que pour la création chorégraphique, ou pour les musiques de création, etc., etc. Nous, on va traverser tous ces champs-là, et c'est le seul label au niveau national. Les scènes nationales, comme le nom l'indique, ce sont des scènes, donc ce sont des lieux de diffusion. Donc le rôle premier, c'est de montrer l'actualité de création du spectacle vivant aujourd'hui dans toutes les disciplines qui existent. Ce à quoi on s'emploie, bien sûr, et c'est d'amener aussi le public à découvrir les nouvelles esthétiques qui peuvent émerger de ces artistes qui sont souvent presque tout le temps en recherche. Alors il y en a qui vont reproduire ou remonter des choses qu'on a déjà vues, tout en les réactualisant, mais il y a vraiment des endroits où c'est de la recherche esthétique, artistique, de croisement, etc. On est dans des formes un peu hybrides, très, très étranges, qui peuvent peut-être paraître un peu éloignées, mais du coup notre rôle c'est aussi de dire, mais vous savez, non, c'est pas si éloigné que ça, donc on a un énorme travail aussi de mise en lien entre ces œuvres et le public. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on va appeler l'action culturelle, tout ce qu'on va faire autour du spectacle pour que justement ces œuvres soient accessibles au plus grand nombre. Donc la notion de pluridisciplinarité est très importante, la notion de diffusion elle est primordiale. Bien évidemment, on a rajouté à ça la notion de soutien à la création, qui n'était pas forcément au départ l'émission des scènes nationales, puisqu'il y avait des centres de création. Mais finalement, on a intégré cette chose-là dans nos missions parce que c'est tellement lié, la création, la production, la résidence, la diffusion, l'action culturelle, que finalement, on travaille sur ce tout, sur cet écosystème-là du spectacle vivant. Je crois que j'ai tout dit, hein, dans l'émission, c'est à peu près ça. Effectivement, donc de ce lien aussi très fort des artistes avec les habitants d'un territoire, la notion de territoire commence à arriver dans les cahiers des charges des scènes nationales, qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Alors nous, évidemment, on fait partie de ces scènes qui poussent à l'endroit de cette prise en compte des territoires, puisque de fait, nous, on ne peut pas faire sans ce territoire-là. Mais c'est ça la mission d'une scène nationale. Donc pour ça, on a un financement plancher de l'État, qui est aujourd'hui de 500 000 euros par an, mais qui pour certaines scènes nationales, parce que c'est historique, vont aller bien au-delà de ce financement plancher. C'est aussi, les scènes nationales, c'est ce qu'on appelle le réseau de la décentralisation. C'est-à-dire qu'à un ou deux siècles avant, tout se passait à Paris, c'était très jacobin, et il ne se passait pas grand-chose dans les provinces, comme on disait. Et puis André Malraux, Jeanne-Laurent avant, André Malraux, à l'issue de la guerre, puis Jacques Lang, avec les lois de la décentralisation, ça a été aussi tout le mouvement de dire on va amener les créations au plus près des territoires. Et donc les scènes nationales sont historiquement plutôt des structures dans des villes moyennes. c'est pas des grosses grosses villes, c'est pas même s'il y en a une à Marseille, c'est un mauvais exemple, il y en a pas à Lyon par exemple, il y en a au départ les premières maisons de la culture, mais ensuite après ça a été plutôt des bassins de population de villes moyennes, Châteauroux, Le Mans, enfin Le Mans c'est venu après, Limoges, enfin voilà, ou Grenoble, ces grosses villes mais pas les plus importantes de France, avec un bassin de population, et on est un peu resté sur ça, c'est un équipement avec la dimension d'un bassin de population de 150 000 habitants et qui ont un budget au minimum de 2 millions d'euros, alors plus ou moins. Alors nous, c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans ces critères-là, puisque les 150 000 habitants, c'est même pas un bassin de population, c'est le département en entier, donc c'est aussi pour ça qu'on a travaillé le projet à l'échelle du département. Et voilà, c'est ça les scènes nationales. Alors aujourd'hui, on est 78 au niveau du territoire français et outre-mer. Donc il y a effectivement des premières maisons de la culture qui datent de Malraux, Bourges, Grenoble, Amiens, voilà, qui sont aujourd'hui des scènes nationales. Et puis il y a eu tout le réseau des scènes nationales dans les années 80-90. Et là, il y a beaucoup moins de labellisation depuis une dizaine d'années. Mais c'est plutôt des scènes dans des milieux ruraux. Il y a Bar-le-Duc, il y a pas mal de scènes dans les territoires ruraux, mais pas que. Voilà, donc tout ça, ça crée par contre un réseau assez hétérogène, mais dont la mission est la même. Donc c'est ça qui nous rassemble aussi. Ce qui fait qu'on est tous sur des missions de création, de résidence, de diffusion et d'action culturelle. Sur du spectacle vivant, création contemporaine.
Le Théâtre Durand, c'est également tout un espace, un emplacement bien précis, avec un confort d'écoute qui est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est quelque chose que vous avez toujours non seulement suivi, mais auquel vous avez toujours tenu.
Alors le confort d'écoute, on va dire, c'est grâce aux architectes quand même. Enfin, à ceux qui ont conçu la salle. Il n'y a pas que les architectes d'ailleurs, il y a aussi notre directeur technique qui est beaucoup intervenu dans les plans pour en faire effectivement un rapport, ce qu'on appelle nous le rapport scène-salle, le fameux rapport scène-salle, que je trouve assez efficace dans cette salle du Théâtre Durand. C'est-à-dire qu'on a 15 rangs de gradins, et au 15e rang, on n'est pas si loin de la scène que ça. Il y a des salles, je peux vous dire, au 10e rang, déjà, on est très loin du plateau. Ou alors on a des théâtres à l'italienne qui sont très beaux architecturalement parlant, mais qui ne sont pas des salles confortables pour le spectateur, parce que même au 15e rang, on a la scène au niveau du nez. Enfin voilà, nous, on a une salle au sol. Enfin, il y a plein de choses qui ont été pensées pour rendre vraiment cette relation au plateau très immédiate et très proche. Et ce qui permet aussi de travailler énormément l'écoute du public, c'est-à-dire que les artistes nous renvoient le fait que dans cette salle, il y a une écoute extraordinaire du public. Vraiment, ils disent, les gens sont avec nous, bah oui, ils sont devant, ils sont tout prêts. Et on voit tout sur le plateau, on voit les moindres détails, les expressions des comédiens, des danseurs, les souffles, les respirations. Enfin, et donc on accède, je trouve, à un autre espace de la représentation. Alors des fois, on manque peut-être d'une vision d'ensemble, mais par contre, on a cet accès à ces choses-là qui sont des choses très généreuses, très intimes aussi, et qui peuvent parler à une partie des spectateurs. Et je pense qu'ils sont très contents de cette relation avec les artistes au plateau. Après, on a plutôt des bons fauteuils, on est bien assis, et on a une acoustique qui a été travaillée au fil des années pour qu'elle soit la meilleure possible aussi, pour accueillir aussi des projets de musique. Voilà. Donc ça a été, c'est un travail, et c'est une salle qui est en perpétuelle, alors pas évolution, mais en tout cas chaque année on fait des petites transformations pour rendre ce lieu le plus efficace possible techniquement, pour passer le moins de temps technique, pour pouvoir justement garder le plus de temps pour l'artistique, et cette modularité du gradin qui nous permet de faire toutes les configurations possibles et imaginables. Donc c'est un terrain de jeu pour nous aussi, cette salle, elle est extraordinaire pour ça. Voilà. Alors c'est pas un beau théâtre, en sens c'est une boîte noire, c'est ce qu'on appelle une black box, voilà. Une boîte noire, mais c'est hyper efficace. Et pour le coup, je trouve que, pour en avoir visité pas mal de théâtres en France et en particulier dans la région, je trouve que, en fait, d'ailleurs, on le dit, hein, y a pas que nous, c'est une des meilleures salles de la région. Voilà. Moi, je suis très contente. Moi, je suis tombée amoureuse de cette salle. Voilà. Donc, j'ai du mal à me projeter, même en me disant peut-être que demain j'irai travailler ailleurs. J'ai du mal parce qu'en fait, les lieux ne me parlent pas, ils me renvoient rien. Alors que ce théâtre Durand, j'ai appris à le connaître, à l'aimer, et du coup, ça me nourrit aussi dans la programmation. Voilà.
Juste dire que contrairement à d'autres théâtres, on n'a pas de catégorie. Nous, c'est que tout le monde est bien placé, quoi. Donc, quand le public appelle pour prendre sa place, parfois ils ont peur d'être mal placés. Et voilà. Et moi, pour avoir vu des spectacles à plusieurs endroits, à cour, à jardin, devant, derrière, on voit très bien de partout et on a une bonne vision, quoi. Et une très bonne écoute.
Si je vous dis que le théâtre du Rance a une âme, qu'est-ce que vous répondez ?
Alors, je pense que l'âme, elle est faite de. Pas que du bâtiment, je ne suis pas sûre qu'il ait une âme, En tout cas, il dégage quelque chose de positif, ça c'est clair. On ne travaille pas contre le bâtiment, ça c'est très clair. Et s'il y a une âme, je pense que l'âme, c'est les artistes, l'équipe et le public qui la fabriquent. Et c'est cette rencontre-là. L'âme du théâtre, c'est ça.
Les spectacles s'enchaînent, vous avez un rythme extrêmement soutenu tout au long de l'année. Tous ces spectacles, ils nous arrivent de bien loin parfois. De quelle façon est-ce que vous sélectionnez les spectacles ?
Je prends un beau catalogue, je tourne les pages, je coche les pages. Non, après, ça c'est une question qui revient souvent. C'est compliqué parce que en même temps, j'ai envie de dire que je ne fais pas les saisons deux fois de la même manière. Voilà. C'est quand même une connaissance assez aiguë, voire pointu du réseau de la création, et donc qui nous oblige à être pointu aussi bien dans la danse, le théâtre, la musique, le cirque. Donc en fait, c'est un champ d'investigation assez important. C'est pour ça que je travaille avec Elsa sur la programmation musicale et que je travaille avec Marie Rouge, responsable de la communication et des relations au public, sur la programmation jeune public, parce que finalement ça devient beaucoup pour une seule et même personne, sachant que ça n'est pas que ça mon travail. Voilà, si c'était que ça, si j'étais que programmatrice à la limite, je pourrais le faire très facilement. Mais je suis aussi directrice générale de cette équipe. Et donc, ça prend aussi énormément de temps et qui n'est pas un temps artistique. Donc, ce temps artistique, je suis obligée de le partager. Donc, c'est du repérage, c'est une connaissance des réseaux, c'est une connaissance des compagnies. Donc, je reçois quand même pas mal de compagnies. Beaucoup me sollicitent pour un rendez-vous, pour me parler de leur démarche, de leur projet de création. Beaucoup viennent chercher de l'argent aussi, des moyens, parce qu'ils en ont. C'est aussi ça, c'est aussi des lieux comme le nôtre qui financent en partie les créations. Donc voilà, il faut les rencontrer, se dire, tiens, pourquoi, et après, pourquoi ce projet-là plutôt qu'un autre ? Ben, je serais bien incapable de vous dire, il y a des fois, il y a des raisons totalement inexplicables. Des fois, je me dis, tiens, mais ça va rentrer en résonance avec ça, ou ça, je vais pouvoir le décliner, pim, 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 pam, poum, sans même moi comprendre ce qui se passe. Il y a des fois, c'est peut-être un petit peu stratégique, quand même, en me disant, bon, si je fais ça, allez... Ouais, ça c'est le bon moment, voilà. Ou je me dis, tiens, là, on va pousser un peu plus loin, là, on va rassurer. Enfin, je sais pas, c'est une espèce d'alchimie que j'arrive même pas à m'expliquer et qui n'est jamais la même d'une année sur l'autre. Après, c'est quand même une histoire que j'écris dans ma tête. Pour dire, je suis pas toute seule dans ma tête. Il y a plein d'artistes, plein d'histoires, plein de trucs. Non, je déconne. Mais c'est des scénarios. Après, il y a des choses très concrètes. J'ai déjà expliqué. C'est combien ça coûte. Est-ce que ça rentre dans le théâtre? Est-ce qu'ils sont disponibles? À quel moment? Sachant que tout ça doit rentrer dans un planning à peu près cohérent. Et qu'en plus, on est de plus en plus sur des tournées mutualisées. Donc, il faut que ça rentre dans le planning des autres, des voisins, etc. Donc, ça complexifie énormément les choses. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt l'expérience qui fait qu'on s'en sort de ces espaces de complexité, et qu'à un moment donné, oui, il y a des fois, je dois renoncer à des spectacles, c'est un peu un crève-cœur, mais c'est comme ça, voilà, parce que pour x, y, z raisons, ça rentre pas, voilà. Mais sinon, c'est plutôt, ouais, là, je sens, je sais pas, c'est un feeling, j'ai du mal à expliquer ça, hein, mais il n'y a pas de grille, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de je coche les cases, il n'y a pas je vais me faire 3 spectacles de théâtre, 5 de danse, 10 de musique. Il me manque. Alors oui, je peux dire il me manque un jeune public parce que quand même, on sait aussi qu'on doit répondre à des catégories de spectateurs et notamment chez les jeunes. Donc je peux être des fois à dire à mes collègues là, il me manque un spectacle pour les 3, 6, 9 ans, j'en sais rien. Donc ils vont me dire il y a ça, 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 ça et ça, je vais aller voir et puis voilà. Donc c'est du réseau professionnel aussi avec des collègues. On commence à bien se connaître les uns les autres et il y en a avec lesquels je sais qu'on a une vraie appétence artistique, c'est-à-dire qu'on a des complicités. Donc s'ils me recommandent un spectacle, je vais plutôt l'écouter. Et comme je dis, il y en a d'autres qui vont me recommander un spectacle, je vais plutôt faire demi-tour. Voilà, parce que je n'aime absolument pas ce que certains de mes collègues programment, donc c'est assez drôle d'ailleurs. Des gens que j'aime beaucoup, je dis, mais franchement, on est aux antipodes, vraiment, de ce qu'on programme, ou même de la manière dont on programme, ou pourquoi on le fait. Après, je pourrais en parler des heures et des heures, tout ça pour dire que je ne sais pas comment je fais, mais il y a quand même une chose qui m'anime, c'est qu'est-ce que ça raconte ? Et notamment dans le théâtre, je trouve que c'est extrêmement important pour moi d'amener des propositions en tout cas qui sont ancrées dans la société d'aujourd'hui, des questions très, très d'actualité. Et le tout dans tout ça, et je l'ai déjà dit, c'est aussi des propositions qui amènent tout le temps à faire le pas de côté. Voilà, globalement c'est ça. C'est, je me dis, est-ce que cette forme-là, elle fait faire un pas de côté ou pas ? Et des fois, le pas de côté, c'est simplement de se dire, on n'en fait pas, mais c'est très très beau en fait. C'est le pas de côté de l'émotion ou du merveilleux, et ça fait du bien aussi. parce que tout ça c'est un équilibre. Donc on fait pas des pas de côté tout le temps. Des fois on fait des grands pas de côté, des fois on fait des tout petits pas de côté. Mais en tout cas, l'idée c'est d'amener le plus possible les gens à être curieux de ce qu'ils viennent voir au théâtre, que eux fassent le pas de côté par rapport à leurs repères. Et de plus en plus, on a ces retours-là. Et là, c'est pour ça que je dis, ouais, c'est plutôt chouette que les gens viennent nous disent ou nous témoignent, de plus en plus nombreux. Mais en fait, on ne sait pas tellement ce qu'on vient voir parce que c'est compliqué de parler des spectacles. Mais on apprécie, on n'aime pas tout. Mais on découvre des choses. Et franchement, il y a 10 ans de ça, on n'aurait pas fait la démarche de découvrir. Donc, il y a une relation de confiance. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais cette relation de confiance entre le public et le théâtre d'Urance et l'équipe, elle existe. Et qu'il y a vraiment un retour sur la programmation qui est de dire c'est de qualité. Et des fois, ça nous surprend parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne savait pas que le théâtre ou la danse, ça pouvait être ça. 3 fois sur 4, ils ont dit ça nous a vraiment aidé, on a vraiment été surpris, on a aimé. Il y a des fois, ils disent on n'a pas aimé, mais ce n'est pas grave. Et alors là, waouh, là c'est gagné en fait. Parce que aller au théâtre, ne pas aimer et revenir au théâtre, c'était tout l'enjeu. En fait, c'était ça. Voilà. Parce que oui, on a le droit de ne pas aimer un spectacle. Bien évidemment, on a le droit de ne pas aimer, on a le droit de ne pas être touché, on a le droit de ne pas être en disponibilité pour le recevoir, on a le droit de ne pas être d'accord. Enfin, je veux dire, heureusement, c'est toute la pluralité qui se développe aussi dans ces espaces-là. Donc le tout, c'est de revenir. Moi, je suis très bavarde, hein, je suis désolée, mais je pars peut-être un peu dans tous les sens. Mais...
Au contraire, justement, Elsa, nous venons d'écouter avec beaucoup d'attention ce que vient de dire Élodie. Alors, on a bien compris, hein, c'est une belle aventure, une aventure qui ne part pas comme ça au hasard. Il y a beaucoup de rigueur dans ce travail. Et en même temps, il faut une part un tout petit peu au rêve, au chemin de traverse. Hein, vous me disiez, Élodie, tout à l'heure, qu'on peut emprunter. Vous avez donc cette relation avec Élodie, qui est quelqu'un qui est professionnel, bien sûr, et vous aussi. De quelle façon est-ce que vous vivez cette relation? Parce que, bon, c'est avant tout une complice de travail. C'est aussi la directrice du Théâtre d'Urance. Comment se fait cette symbiose, ce travail? De quelle façon est-ce qu'on peut le définir?
Je ne sais pas, c'est peut-être une relation de confiance déjà. Ajouter aussi qu'Élodie va avoir beaucoup de spectacles. Donc elle est beaucoup en déplacement. Donc elle nous laisse, entre guillemets, aux trois cadres, les clés du théâtre. Et du coup, ça fait que ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir cette confiance-là. Et elle le dit aussi que voilà, elle sent qu'elle peut s'éloigner de plus en plus parce que aller voir des spectacles quand on est à Château Arnoux, bah ça prend du temps parce qu'il faut aller à Marseille au mieux, mais sinon ça peut être ex-Marseille, mais sinon ça peut être très vite le Paris. Enfin donc du coup ça applique plusieurs journées par semaine parfois de déplacement. Donc voilà, il faut aussi que le théâtre fonctionne quand la directrice n'est pas là et ça se passe bien. Voilà, donc après, une relation, ça reste une relation de travail. Après, on s'entend bien. Quand on va en échapper, on peut discuter dans la voiture pendant 1h30 et on ne parle pas que de travail. Parfois, on parle aussi d'autres choses. Et voilà, mais ça reste une relation professionnelle, mais une relation de confiance.
Est-ce que la créativité et la rigueur vont de pair dans ce travail, dans le travail que vous pratiquez tous les jours?
Alors, créativité, je ne sais pas, parce que voilà, moi, je suis pas une artiste. Hein, à part pour faire des PowerPoint, je n'ai pas trop besoin d'exprimer ma créativité.
Il faut beaucoup de feeling aussi pour sentir les choses.
Oui, c'est plus l'envie. En tout cas, oui, l'envie de faire les choses et après de les confronter à la réalité. C'est-à-dire, est-ce que tel spectacle va pouvoir rentrer dans le théâtre? Bon, oui, il rentre. Mais après, il faut faire à manger. Donc, demander aux équipes de se mobiliser, etc. Voilà, il faut aussi réussir à avoir l'envie et les entraîner dans ce projet. Donc, c'est plus l'envie, je dirais, qui va après se confronter avec la rigueur et réussir à faire rentrer souvent des ronds dans des carrés. C'est un peu ce qu'on dit souvent en réunion d'équipe, mais c'est vrai que c'est souvent ça qui se passe, ouais.
Élodie, Elsa, on se retrouve dans quelques petits instants. Nous sommes avec le Théâtre d'Urance à Château Arnoux-Saint-Auban. Nous sommes d'ailleurs au Théâtre d'Urance dans ce magnifique espace qui apporte la magie et qui en même temps nous apporte tellement de plaisir et d'aventure. Nous retrouvons nos invités, Élodie et Elsa, le Théâtre du Rance. Est-ce que vous pouvez nous parler, hein, toutes les deux, d'un projet ou d'un spectacle récent qui vous a particulièrement marqué ?
Bon, moi, je vais faire simple. Je vais parler du spectacle qu'on a accueilli hier en échappée à Faucon de Barcelonnette. Et c'était prélude d'un spectacle de la compagnie Acrorap du chorégraphe Kader Atou. Et en fait, j'y allais avec un peu de réticence parce que je l'avais vu la saison dernière. On l'avait joué pour la Journée des Arts au Collège Camille Raymond. Et on avait accueilli cette compagnie et c'était dans le gymnase. Et moi, j'étais assez... on avait laissé la place aux collégiens. Il y avait énormément de collégiens. Et j'étais derrière. Et en fait, je voyais que les bouts de tête sauter de temps en temps. La musique était bien, mais c'était pas, ça ne m'a pas transporté. Et je me suis dit, ah bon, ce spectacle en échappait toute la semaine... Je ne sais pas, j'étais un peu interrogative, tout en sachant que voilà, la compagnie Acrorap, c'est une très grosse compagnie de hip-hop, Kader Atou, un chorégraphe très reconnu. Donc j'avais déjà vu d'autres spectacles de lui, donc je n'avais pas non plus peur. Et en fait, hier, à Faucon de Barcelonnette, devant la mairie, dans une disposition en extérieur, avec la montagne derrière, voilà, on est arrivé, c'était déjà les répétitions. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est autre chose. Et ensuite, le spectacle, ça m'a vraiment transportée de voir des danseurs qui étaient en symbiose et le public qui suivait. Et voilà, et ça m'a vraiment marquée. Ça ne m'a pas raconté d'histoire, mais c'était juste poétique. Et vraiment, et le moment de voir tous ces gens, il y avait quand même 200 personnes à Faucon de Barcelonnette qui étaient absorbées dans le spectacle. Et c'est ce genre de moment qu'on aime bien vivre. Et la musique était vraiment extraordinaire.
Pour vous, Élodie, visiblement, vous avez raisonné à l'unisson sur ce spectacle.
Oui, moi, j'ouvrirai plus largement sur les échappées, qui pour moi sont vraiment des espaces de bonheur incroyables. Hein. Mais le bonheur, ce n'est pas seulement de se dire « Ah, c'est chouette, les spectacles rencontrent façon juste », mais c'est tout ce qu'on tricote avec les élus et de voir qu'en fait, ça fonctionne quand on travaille ensemble et qu'il y a de plus en plus de monde qui vient voir ces spectacles, que ce soit en salle ou en extérieur, et que les gens font de la route, se déplacent, pour venir voir ces propositions et qu'aujourd'hui c'est « Ah, les échappées du Théâtre du Rance, on y va ». Et je trouve ça, mais c'est hyper joyeux en fait. Et nous, c'est très réconfortant et très régénérant aussi. C'est-à-dire que, par exemple, là, en ce moment, on est en fin de saison, on est tous quand même plutôt en mode fatigué, c'est normal. Bah, on se dit « Oh là là, encore aller faire une heure et demie de route, aller, retour, au fin fond des vallées, etc. » Mais en fait, moi, ça me redonne une patate incroyable. Donc ça, c'est les échappées. Mais alors du coup, pour ne pas être redondante, puisque j'ai déjà pris mon temps de parole, non, moi, cette année, on a fait un truc un peu nouveau qui s'appelle « Écoute », qui était un temps fort autour du son, de la musique et de l'écoute. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette édition-là, alors est-ce qu'on en fera une ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce moment-là, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, pour des raisons qui vont peut-être vous étonner, c'est qu'en fait, depuis maintenant la sortie du Covid, presque, on est très content parce qu'il y a énormément de public, et en salle, et justement dans les villages. Mais en fait, on ne fait que gérer du trop. Et c'est tant mieux, je veux dire, heureusement, et c'est super. Mais finalement, on est là à dire non aussi souvent à des gens qui ont trop envie de venir voir des spectacles. Et là, le fait d'avoir créé un temps sur 15 jours, avec plusieurs propositions dans la semaine, assez pointu quand même, hein, dans le domaine de l'écoute, donc qui tout le monde n'est pas venu. Et en fait, avec des jauges plus petites, mais des spectacles qu'on jouait plus souvent. Je ne sais pas, il y avait un rythme où moi, j'ai eu le sentiment d'avoir le temps de rencontrer les spectateurs. On avait mis la buvette dans la salle qui a été ouverte pendant 15 jours. Les gens se posaient, c'était calme, c'était un peu plus lent. C'était, après les spectacles, on pouvait vraiment prendre le temps de discuter. Ce qui nous manque, hein, à la sortie du spectacle, la placette, les gens, ils ne s'attardent pas. Et c'est toujours un peu... là, c'était le moment pour moi où les choses se posaient, aussi nous, dans la rencontre avec les spectateurs et avec les artistes. Et c'était une petite bulle comme ça qui, moi, m'a fait beaucoup de bien.
Quand on est, comme vous, directrice d'un théâtre, scène nationale, je le répète, dans le contexte actuel, culturel, de quelle façon est-ce que vous voyez l'avenir du Théâtre du Rance ?
Alors, j'ai sorti ma petite boule de cristal. Je ne vois rien dedans. Je suis désolée. J'en sais rien. En fait, là, on sent qu'on a un contexte qui quand même fragilise énormément l'écosystème du spectacle vivant. Dans d'autres aussi, hein, mais en tout cas, le nôtre, il est extrêmement touché. Fragilisé par aussi des prises de position symboliques. On voit fleurir au niveau national des discours qui sont, je pense, pas du tout justes par rapport à la réalité de ce qu'on fait sur, dans nos lieux et sur nos territoires. Et donc un discours qui est que nous ne sommes pas du tout à l'écoute de, des vraies attentes des gens, que nous nous adressons qu'à une élite et que nous travaillons dans un circuit fermé, dans un entre-soi. C'est ce qu'on entend de plus en plus. Et moi, je pense que c'est extrêmement faux et que les élus qui profanent ces paroles-là sont des élus qui ne fréquentent pas les lieux et qui ne connaissent pas les métiers. Donc nous, c'est pour ça qu'on passe autant de temps à partager le projet avec les élus locaux pour bien leur expliquer c'est quoi cet équipement qu'ils ont sur leur territoire et en quoi on peut accompagner les politiques publiques, notamment sur de la présence, de l'aménagement du territoire, du lien à la population, etc., etc. Quand on va discuter avec les élus locaux, on parle rarement de spectacle en fait. On parle plutôt de lien, on parle de faire sens, on parle de rassemblement, de faire communauté. Et ça, les élus locaux, ils ont bien compris que le Théâtre Durance avait une mission comme ça et remplissait cette mission-là. Et en 2 ans, depuis qu'on a fait les partenariats avec les communautés de communes, je pense qu'il y a quelque chose qui est très très clairement compris, en fait. Donc je pense que l'avenir du Théâtre Durance, il est peut-être moins anxiogène que dans d'autres endroits, parce que ce théâtre, il est soutenu par les élus. Après, les élus changent. Il va y avoir des échéances électorales. Quels seront les représentants des communes et des communautés de communes et du département demain ou après-demain ? Ben voilà, ça tient vraiment à des personnalités. Et ce travail, il faut le refaire tout le temps. En fait, c'est incessant. On se dit, tiens, on est arrivé au bout, on a posé un truc. Ben non, il faut recommencer en permanence parce que nos interlocuteurs changent. Ça, c'est au niveau un petit peu institutionnel. Mais c'est important parce que c'est l'essentiel de notre ressource, hein, l'argent public. Donc, si on a moins de subventions, on a moins de projets. C'est très clair. Nous, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire en termes d'économie, dans l'organisation du travail, dans l'amélioration du bâtiment. On a vraiment rationalisé au maximum pour garder un maximum de moyens pour le projet artistique. Demain, si on nous enlève de l'argent, c'est du projet en moins. Alors, on peut encore le travailler différemment, ça on s'y emploie. J'en ai déjà un peu évoqué avec nos voisins de Gap et de Briançon. Pour être voilà, un peu mieux disant au niveau écologique et du coup aussi répondre à des contraintes économiques. On va peut-être programmer différemment, moins de spectacles, plus longtemps. En tout cas, cet équilibre entre le spectacle en salle et la présence des artistes sur les territoires, je la trouve juste aujourd'hui et j'espère qu'on va pouvoir la garder le plus longtemps possible. Avec une équipe qui n'ira pas en grandissant aujourd'hui, ça on le sait. Donc voilà, il faut qu'on préserve de ces ressources-là pour les rendre soutenables. Et en interne et vis-à-vis des habitants et de nos partenaires. Après, la grande inconnue, c'est les équipes artistiques aujourd'hui, parce que nombre d'entre elles sont en grosse difficulté et pas mal sont en train de disparaître. Quels vont être les formats auxquels on aura accès demain ? C'est-à-dire que si les compagnies n'ont plus la possibilité de créer des spectacles, on voit 9, 10 interprètes sur le plateau, bah, on ne verra plus ces spectacles-là, en fait. Et qu'à un moment donné, peut-être que les gens seront en demande de choses qui ne pourront plus exister. Donc voilà, ça ne nous concerne pas que le Théâtre Durance, mais moi je pense que c'est important de préserver la diversité. Et en même temps, on doit faire une espèce de chemin dans tout ça. Alors de quoi demain sera fait, j'en sais rien. J'ai envie à la fois d'être optimiste en disant qu'on a une faculté de résilience et d'adaptation qui est quand même assez... une élasticité, j'ai envie de dire, qui fait que finalement, on trace notre chemin et que là, on a vraiment ici, sur notre territoire, de très bonnes bases. Après, concrètement, quand même, ce qui s'annonce n'est pas très réjouissant, mais ce n'est pas que pour le Théâtre Durance, c'est pour ni même pour la culture seulement. C'est la société qui évolue vers des endroits qui, moi, me... Je crois que je suis trop vieille, en fait, en tout cas professionnellement. Mais voilà, on est sur un modèle financé par de l'argent public qui peut-être dans 5 ou 10 ans ne pourra plus exister. Donc est-ce qu'on trouvera des solutions ? Ça, je n'en sais rien. Ma boule de cristal ne me raconte pas comment ça peut marcher.
En tout cas, un constat édifiant pour le Théâtre Durance, le public, il est là.
Ah bah oui, il est là, ce que je disais, c'est que même il est là et même plus que là, c'est-à-dire qu'on refuse beaucoup de monde tout le temps. Donc c'est pour ça que la saison prochaine, sans dévoiler la saison prochaine, mais quand même on a démultiplié les représentations, donc on fait pas plus de spectacles, on fait plus de séries en fait, voilà, pour que un maximum de gens puissent venir au théâtre, alors qu'on fait déjà dans les territoires. Voilà, on essaie de trouver des solutions à budget constant et à calendrier qui n'est pas extensible non plus. Donc voilà, on peut pas mettre 3 spectacles dans une semaine, ça marche pas.
Nous retrouvons nos invités dans un petit instant, de la musique et juste après nous parlons des escapades, ça arrive et c'est prochainement sur notre belle région.
Flowers, time's ringing when we're watching
escapades, 13 et 14 juin, nous y sommes. De quelle façon ça va se dérouler?
Les escapades, c'est notre rendez-vous de fin de saison qu'on aime particulièrement. C'est comme les échappées. Voilà, c'est, on se dit, ah, ça arrive, on vient fatigué et tout. Et bien, en fait, c'est vachement bien. Voilà, bon, pourvu qu'on ait le temps avec nous. Ce sont donc deux soirées de concert qui sont programmées à côté du théâtre, sur le plateau des Lozières, sur le parking du Boulodrome. Hein. Enfin voilà, on est super assis dans la verdure avec la montagne Saint-Jean devant nous, c'est assez joli. Et on invite les gens à se poser pour une soirée avec trois concerts et puis ce qu'on appelle nous le village, donc avec restauration et boissons, puis plein de choses, voilà, bar des Minots, espace info, espace lounge safe, voilà, tout ça pour qu'on se sente bien aux escapades, qu'on y vienne parce qu'on a envie de sortir boire un verre, ou parce qu'on aime la musique, ou parce qu'on est bien dehors et parce que c'est bientôt l'été, parce que c'est gratuit aussi et qu'il faut en profiter, parce que peut-être que ça ne durera pas si longtemps que ça, on n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, les escapades, c'est vraiment pensé pour être une manifestation qui s'adresse à tous et toutes, donc en famille ou seul, accompagné avec des amis, sans restriction aucune. Donc cette programmation, on la compose avec Elsa et elle vous en parlera plus en détail. Donc on ouvre le site à 19h et le premier concert démarre à 20h et après ça s'enchaîne jusqu'à peu près minuit et demi, 1h du matin. Voilà. On est très contents de ce moment-là parce que ça nous permet aussi de continuer ce petit travail de pas de côté vers une programmation de groupes qui n'ont pas forcément leur place dans les médias nationaux, radio-télé. Donc, c'est pas forcément des groupes connus, mais par contre, dans les circuits professionnels, soit ils ont fait des festivals assez importants, ou ils ont été repérés par le Printemps de Bourges, ou voilà, par les réseaux. Nous, on a jugé que c'était d'abord des bons musiciens et qui amenaient une inventivité sur le plateau et qu'on avait envie de faire découvrir. Voilà.
Au niveau de la programmation, on essaye de faire aussi une programmation équilibrée, mais là, on a des groupes principalement nationaux, mais avec à chaque fois des... dans les projets des origines internationales. Et du coup, ça pourrait se rapprocher d'une programmation musique du monde, mais c'est quand même assez alternative aussi, quoi. Le premier concert qui commence à 20h avec le groupe Bien Sûr, qui ils se sont rencontrés, ils sont des Alpes de Haute-Provence, hein, parce qu'ils sont de Fort-Calquier et d'à côté de Saint-André-les-Alpes, qui font une musique électro-méditerranéenne. Ça s'enchaînera avec Kolinga. Kolinga, elle a des origines congolaises, mais elle a grandi dans le Béarn. Donc c'est pareil, c'est à chaque fois des croisements, des questions qu'on se pose aussi. Qu'est-ce que ça fait d'être métisse et de grandir dans des territoires très ruraux? Voilà, elle chante en français, en anglais et en lingala. Et ça se terminera avec Chassol. Chassol, c'est un producteur, compositeur, pianiste qui joue. Et là, il sera en duo, accompagné avec un batteur. Et sa particularité, c'est qu'en même temps qu'il joue, il mixe de la vidéo. Donc normalement, s'il n'y a pas trop de vent, il y aura un écran où il projette des images qu'il construit lui-même. Et ça enchaînera entre tous les concerts. Vous pourrez aller manger dans les différents food trucks. C'est que des food trucks des Alpes de Haute-Provence. Donc il y a du salé, du sucré, il y en a pour tous les goûts. Il y a le bar des escapades, bien sûr, avec de la bière de la Durance et la bière Cordeuil, donc de la bière locale, du vin, des softs. Le bar des Minots, qui est organisé et tenu par les enfants, sous la responsabilité de leurs parents. Et il y aura, pour mettre l'ambiance entre les concerts, les mobilettes sound system, qui sont un trio de DJ marseillais qui passent de l'électro tropical. Ça nous emmènera jusqu'au bout de la soirée et on enchaînera le lendemain, le samedi 14 à partir de 19h, ouverture du site avec encore les mobilettes sous le système. Et à partir de 20h, il y aura le premier concert, donc c'est Electre. Donc là, c'est un trio avec deux chanteuses et un producteur, un musicien qui fait du bouzouki. Donc elles chantent, Electre, elles chantent en grec, mais elles ont aussi des origines congolaises et brésiliennes. Donc pareil, ça ressort un peu toutes des origines de partout. Ça continuera avec Shellaboom. Shellaboom, c'est un groupe de 6 musiciens qui viennent de la région de Bordeaux. Alors eux, pour le coup, ils viennent juste de démarrer. Ils ont été repérés au Transmusical de Rennes et ils font de la pop prog psychédélique. Donc voilà, tout un programme assez dansant. Elles chantent avec une chanteuse qui chante principalement en français. Et ça se terminera avec l'orchestre fanfare The Very Big Experimental To Be Free Orchestra. Et là, ils sont 18 musiciens. Donc là, il y a vraiment de tout. Il y a des chansons, des cordes, des instruments à vent, batterie, basse, guitare, basse, clavier et vibraphone. Et donc ce sera le troisième groupe du deuxième soir et on clôturera la soirée de nouveau avec les mobilettes sous le système.
On rappelle que ce rendez-vous est gratuit. Le petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Merci. Non, mais je le dis souvent, mais c'est vrai. Non, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, sur les escapades, venez nombreux, plus on est de fous, plus on s'amuse et plus c'est sympa. Voilà, ça, c'est la première chose. Et ensuite, si vous êtes un peu curieux, que vous ne connaissez pas vraiment encore le Théâtre du Rance, mais que vous avez des réticences, vous ne savez pas trop, soit vous allez sur notre site internet et puis vous verrez toute la programmation qui sera en ligne dans quelques semaines. Sinon, vous nous appelez aussi très simplement. On a plein de personnes à répondre au téléphone et on le fait avec plaisir. Et puis surtout, je vous invite, nous vous invitons à assister à la présentation de la prochaine saison, donc la saison 25-26, le jeudi 26 juin à 19h au Boulodrome. C'est gratuit, c'est sans engagement. Franchement, vous venez, vous nous écoutez parler des spectacles et vous n'êtes pas obligé d'acheter des places à la sortie. Franchement, ça vous plaît pas, ça vous intéresse pas. Enfin, en tout cas, venez parce que c'est assez sympa. Et puis vous allez découvrir tous les spectacles qu'on vous a préparés pour la saison prochaine, que ce soit au théâtre ou dans les villages, en échappée. On vous attend nombreux, pas besoin de réserver cette année. On estime que le Boulodrome est assez grand pour accueillir tout le monde. Voilà, on espère. On vous donne rendez-vous à cette date-là.
Manosque, Marseille, fréquence Mistral.